Matthieu, l'évangile de Jean, les actes des apôtres sont tous les quatre précédés d'un prologue. L'évangile de l'enfant de Luc est un prologue. L'évangile de l'enfant de Matthieu, qui est tout à fait différent, mais dont les perspectives correspondent à ce que je vous disais tout à l'heure de Matthieu, est un prologue. L'évangile de Jean est un prologue. Mais l'acte des apôtres, le récit de la Pentecôte, est aussi un prologue. Est aussi un prologue parce que lorsque ça a été rédigé, lorsque Luc a rédigé ça, on savait déjà plus très bien qu'il y a eu probablement Pentecôte sous la forme d'effusion d'esprit brutale. Nous en avons un exemple, tout à fait au début d'ailleurs, c'est lorsque Pierre vient d'être mis en prison, hein, et puis par une combine que je ne connais pas bien, il s'en est échappé. Il revient voir les siens. Voilà, ils sont tous, je dirais, la joie de le retrouver, cette sorte de prise de conscience en profondeur d'une action qui les dépasse, là, il y a vraiment, semble-t-il, un moment de Pentecôte, ou une effusion d'esprit. Mais la description, en disant, mais ils ont l'air sous, enfin, ils expliquent, enfin, toutes les explications qui sont dans une certaine mesure dans la ligne de ce que le lecteur peut comprendre à travers un prologue théologique qui est le suivant, c'est que la parole de Dieu est partie de Jérusalem et doit aller jusqu'au bout du monde. Le bout du monde pour Luc, c'est Rome. Lorsque Paul va arriver à Rome, on arrête le récit parce que le récit n'intéresse pas. Le récit n'intéresse pas. Nous ne savons pas. Les actes des apôtres ne s'intéressent pas à Paul après qu'il a atteint Rome. Sauf que, par exemple, le projet que Paul dit dans une de ses lettres, à savoir qu'il est à Rome pour ensuite aller en Espagne, on n'en parle plus, c'est fini. Autrement dit, l'évangile des actes des apôtres, c'est une perspective théorique qui montre, à travers la mission de Pierre, mais surtout la mission de Paul, le cheminement progressif de la parole de Dieu, partant de Jérusalem, et allant jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'à Rome. Donc nos quatre récits, indépendamment de Marc, sont des récits théologiques avec un prologue et le développement correspondant à ce que ce prologue annonce. Bon, alors ceci posé, je vais maintenant vous dire comment je comprends ce que j'ai dit. Quand je dis prologue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'historique dans ce qui est utilisé dans le prologue. Le prologue peut utiliser quelques faits historiques, mais en leur donnant, je dirais, une portée, un sens, autre sens proprement historique qui ne les intéresse pas tellement. Alors pour moi, ce qui est fort intéressant dans l'évangile de Luc, qui est beaucoup plus humain par certains côtés que l'évangile de Matthieu, parce qu'il est tellement préoccupé d'enraciner son église, l'église de Matthieu, dans les origines juives, que tout son prologue est inspiré fondamentalement par les perspectives juives de l'exil et ainsi de suite. Tandis que chez Luc, qui s'adresse à des Grecs, ces perspectives ne sont pas tellement directement intéressantes, il y a des choses plus humaines. Si par exemple il y a cette montée de l'enfant Jésus à 12 ans à Jérusalem, bien, ceci m'inspire toujours beaucoup. Je pense que, pour une raison ou pour une autre, bien souvent, la famille de Jésus montait à Jérusalem pour les grandes fêtes. Il y a un moment où cette grande fête a été particulièrement vécue intensément par cette famille, en particulier par Jésus, c'est peut-être de les relater dans le prologue de Luc. 12 ans, c'est un âge favorable à mon sens, que nous pouvons concevoir nous autres aussi. Dans mon temps, si je peux dire, on faisait sa première communion à 12 ans. Avant, on est encore trop enfant. Après, mon Dieu, on n'est plus assez. Sauf que il y a une période favorable à l'accueil, à l'éveil spirituel, dans une simplicité, une candeur, une crédulité pure, qui permet un démarrage spirituel. Quitte à ce que ce démarrage spirituel soit ensuite assez bocardé, cela par les difficultés de la maturation des instants. L'enfant a 12 ans qui manifeste là une vigueur qui me paraît ne pas être celle seulement d'un bon enfant. L'enfant Jésus, dans ce prologue, tomber son père et sa mère pour dire les choses comme elles sont, ça reste au temple sans demander la permission, avec cette idée qu'il y a bien un enfant de 2 ans, et que beaucoup de catholiques devraient avoir, à l'âge adulte, à savoir qu'il ne faut demander la permission que lorsqu'on est sûr qu'on vous l'accordera.
Oui,
c'est élémentaire. C'est élémentaire. Eh bien, l'enfant veut dire avec cela, il n'a pas demandé l'autorisation. Il avait du caractère, cet homme, ce garçon. Il le manifestera, tout le monde savait. Bon, voilà un premier point. Alors un deuxième point que j'ose à peine vous le dire. Je vous appelle à vous dire que cela vous paraît du pur roman. Enfin, vous en prendrez ce que vous voudrez, je n'ai aucune autorité pour inventer des choses. Ça. Un pur roman. Mais c'est un exemple pour vous montrer que quand on lit l'Évangile à fond, qu'on le connaît bien, enfin, à fond, on le connaît bien par le fait qu'on l'a lu plusieurs fois, qu'on est souvent en train d'y travailler de la tête, ça, il y a des rapprochements de petites choses qui sont tout à fait indépendantes dans une lecture quelconque, mais qui peuvent peut-être suggérer quelque chose d'autre. Il y a toujours une question qui s'est posée, moi, depuis longtemps, mais que je n'avais jamais posée avec autant de précision, il y a depuis quelques semaines, quelques mois, c'est pourquoi donc, au début de nos trois synoptiques, il y a d'abord l'appel des quatre, Pierre, André, Pierre, Jacques et Jean. Et puis, ça recommence ensuite avec les 12. Pourquoi ces quatre-là ? Qu'est-ce qui les a donc privilégiés ? Parce que non seulement ils ont été appelés les premiers, les autres les appelés après, mais dans tout le long de l'Évangile, ils ont un rôle très particulier. Ils ont un rôle très particulier. Si par exemple, eux qui sont témoins de cette sorte de christophanie, qui est peut-être même bien une christophanie, qui est ce qu'on appelle la transfiguration. Il y a quelque chose d'autre encore. Les fils de Zébédée, ils en faisaient partie. Bon. Autre chose encore. Dans l'évangile de Jean, immédiatement après la montée, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, les synoptiques chasse Jésus au désert, ce qui est très probable, mais l'évangile de Jean ne parle pas des tentations au désert parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'il se fait de Jésus, Jésus glorifié. Jésus glorifié, mon Dieu, n'est pas tenté au désert. Donc on ne parle pas de ça, de même qu'on ne parle pas de Jésus glorifié, laisse des angoisses de Gethsémanie. Ça ne correspond pas à la mentalité de l'évangile de Jean. Donc on va supprimer, j'ai des amis d'un côté, on va supprimer les tentations des uns de l'autre. Donc, mais cette idée qu'on voit Jésus baptisé de l'autre côté du Jourdain, une sorte de concurrence entre Jean-Baptiste qui est là, encore en vie, il est en vie, et Jésus baptisé. Et alors, cette chose curieuse dans cet évangile de Jean, on nous dit, dans un premier passage, Jésus baptisait. Et puis, comme si, je dirais, il y avait une certaine réaction théologique, on nous dit quelques années après, non, c'est pas lui qui baptisait, c'était ses disciples. Bon. Il avait donc des disciples.